VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition de ce mardi 17 février 2015. À la une ce soir.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Yamarkoumi, dans l'état de Borno.
Des centaines d'hommes du groupe islamiste ont par ailleurs attaqué la ville d'Askira Ouba.
Et des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun.
C'est dans ce contexte de violence que les Nigériens ont battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer les attaques de l'organisation djihadiste.
Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier.
Reportage à suivre de notre correspondant sur place à Niamey.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés dans la ville stratégique de Debaltseve, dans l'est du pays, déclenchant d'intenses combats.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Manifestation anti-Boko Haram au Niger. Des milliers de personnes ont protesté dans l'ensemble du pays contre l'organisation terroriste nigériane qui multiplie les attaques dans le sud-est du Niger. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram, a promis le président nigérien Mahamadou Issoufou à Niamey devant les manifestants. En dépit des opérations de la coalition régionale mise en place pour combattre Boko Haram, la région du lac Tchad, frontalière du Nigeria, a été la cible de plusieurs raids des djihadistes depuis le début du mois.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées cet après-midi dans une nouvelle attaque suicide près de Biou. C'est ce que rapporte l'agence France Presse citant un témoin. Selon un membre d'une milice locale d'autodéfense, l'attentat a été commis par 3 hommes à bord d'un tricycle dans le village de Yamarkoumi dans l'état de Borno. Ils se sont fait exploser et ont tué 11 personnes, dont un civil, membre d'une milice d'autodéfense et des enfants vendeurs de rue, a dit ce témoin dont le récit a été confirmé par un habitant du village.
Par ailleurs, des centaines d'hommes du groupe islamiste ont attaqué la ville d'Askira Ouba. Des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun, qui affirme qu'un millier de membres présumés de la secte ont été arrêtés. On fait le point avec Jacques Aristide.
Il s'agirait de plus de 1000 combattants et personnes liées à Boko Haram, d'après l'AFP, qui cite le colonel Joseph Nouma, commandant de l'opération Alpha, luttant contre le groupe terroriste. Il a précisé que ces individus étaient détenus à la prison de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, avant qu'ils ne soient remis à la justice. Toujours dans cette partie du Cameroun, 5 soldats du pays ont perdu la vie lundi dans une série d'accrochages avec Boko Haram, l'armée camerounaise indiquant que 86 combattants du groupe islamiste ont aussi été tués. Nouvelle violence également au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont incendié lundi des habitations et des bâtiments publics à Askira Ouba, dans le nord-est du pays. Des milliers d'habitants ont dû fuir à cette ville de l'état de Borno, laissant derrière eux les malades et les personnes âgées, selon un témoin qui ajoute ignorer le sort de ceux qui sont restés à Askira Ouba à la merci de Boko Haram.
L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a quitté le parti au pouvoir lundi soir, 6 semaines avant l'élection présidentielle. Claire Morin-Gibourg.
En déchirant publiquement sa carte de membre du PDP, le Parti démocratique populaire, Olusegun Obasanjo a réussi un coup d'éclat. L'ancien président, un pilier du parti au pouvoir, avait récemment accusé le président Goodluck Jonathan d'être prêt à frauder pour remporter la présidentielle du 28 mars. Obasanjo fut le premier président démocratiquement élu à la fin des dictatures militaires en 1999 et il jouit d'une large popularité. Son soutien à Goodluck Jonathan lors de son élection en 2011 avait été déterminant, mais les relations entre les deux hommes ont viré à l'aigre depuis. Obasanjo a récemment déclaré que Muhammadu Buhari, le principal rival de Jonathan pour l'élection présidentielle, saurait mieux comment combattre le groupe islamiste armé Boko Haram et faire reculer la corruption endémique dans le pays.
Voilà, Bagassi Koura s'est adroitement substitué à Claire Morin-Gibourg. Merci Bagassi.
5e et dernière réunion de suivi des donateurs pour le développement du Mali. Les travaux ont débuté aujourd'hui à Bamako. Elle met face à face les autorités maliennes et le comité de suivi des donateurs qui avait pris l'engagement en mai 2013 à Bruxelles de venir en aide au Mali avec 3,3 milliards d'euros dans sa politique de reconstruction. La rencontre de Bamako doit faire le point sur les différents décaissements. Le point avec Kassim Traoré.
En mai 2013, la communauté internationale s'était engagée à aider le Mali. Plus de 3,3 milliards d'euros avaient été promis. Annick Girardin, secrétaire d'État français chargée du développement et de la francophonie.
La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé. Fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali.
Les pourparlers d'Alger ont été abordés au cours de cette rencontre. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
Si voudrais-je réitérer ici l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre ces négociations dans un esprit constructif, inclusif, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la signature d'un accord de paix.
Le premier ministre malien a salué la solidarité de la communauté internationale, Modibo Keïta.
Le gouvernement du Mali, malgré toutes les difficultés, n'a jamais perdu de vue la nécessité de mériter la confiance de ses partenaires et de s'engager à mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit. Je le réitère ici, nous ferons tout pour mériter de votre confiance.
Cette 5e réunion de suivi est la dernière. Elle doit permettre aux pays donateurs qui ont promis de faire le point de leurs différents décaissements en faveur du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nouveau combat dans une zone pétrolière au Soudan du Sud. Les belligérants sud-soudanais se sont affrontés mardi dans l'état du Haut-Nil, riche en pétrole et stratégique. C'est ce qu'a affirmé le ministre sud-soudanais de la Défense, qui accuse le camp rebelle de vouloir reprendre la capitale d'un autre état clé dans le Haut-Nil, qui se trouve dans le nord-est du pays. Des bombardements d'artillerie ont été signalés à plusieurs endroits de la région de Renk hier et aujourd'hui, a précisé à l'AFP le ministre de la Défense, Kuol Manyang. Selon lui, de nombreux civils ont été blessés et plusieurs maisons détruites. Le Soudan du Sud est ravagé depuis décembre 2013 par un conflit civil déclenché par une rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar.
En Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, sera jugé le 23 février dans un 5e procès devant un tribunal militaire, cette fois pour incitation au meurtre en marge de manifestations. C'est ce qu'ont indiqué des sources judiciaires. Le premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte encourt déjà la peine de mort dans 4 autres procès. Le procureur militaire a ordonné qu'il soit jugé pour avoir incité au meurtre de 31 personnes tuées à Suez en marge de manifestations de ses partisans. Ces incidents se sont déroulés notamment le jour où des policiers et des soldats ont tué plus de 700 manifestants pro-Morsi au Caire le 14 août 2013. Or, ce jour-là, M. Morsi était déjà détenu par l'armée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés ce mardi dans la ville stratégique de Debaltseve dans l'est du pays. Des combats acharnés ont éclaté dans les rues, une dégradation de la situation survenue malgré la nouvelle trêve et un round de négociations téléphoniques au plus haut niveau. Félix Yepassi-Zembro.
Les combats qui faisaient rage depuis des semaines autour de cette ville, quasiment encerclée, se sont déplacés à l'intérieur de la ville et se déroulent en face à face, selon l'AFP qui cite des sources policières régionales. L'entrée des rebelles à Debaltseve, nœud ferroviaire situé entre Lugansk et Donetsk, les deux capitales des républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine, a été confirmée par un porte-parole militaire ukrainien, qui a néanmoins minimisé son ampleur. Kiev, qui a annoncé mardi avoir perdu 5 soldats en 24 heures, soit 10 au total depuis le début de la nouvelle trêve instaurée ce week-end, affirme respecter pleinement le cessez-le-feu et de ne faire que riposter aux attaques rebelles. Les combats à Debaltseve ont été abordés lors de plusieurs entretiens téléphoniques du président ukrainien Petro Porochenko, qui en a discuté lundi soir avec le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi avec celle-ci et le président russe Vladimir Poutine, avant de discuter avec le secrétaire d'État américain John Kerry.
En Syrie, les forces gouvernementales ont lancé une offensive majeure pour prendre en tenaille les quartiers rebelles d'Alep. Cette offensive a commencé le jour même où le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan Mistura, doit présenter au Conseil de sécurité un rapport sur sa mission visant à stopper la guerre ravageant ce pays depuis 4 ans. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, l'armée syrienne, appuyée par des combattants iraniens et afghans, ainsi que par le mouvement chiite libanais du Hezbollah, a pris les villages de Bachkoï et Rian, à une dizaine de kilomètres au nord d'Alep. Des combats se déroulent plus au nord, à Ardentnin, tandis que l'artillerie gouvernementale bombarde deux localités rebelles sur la route menant aux deux villages chiites assiégés.
Tragédie en Haïti où au moins 18 personnes sont mortes électrocutées et 15 autres blessées la nuit dernière suite à la chute d'une ligne électrique. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'accident a eu lieu au carnaval de Port-au-Prince, au passage d'un char qui transportait Barricade Crew, un groupe de rap très populaire. Selon des témoins, quelqu'un à bord du char a utilisé un objet pour soulever le câble électrique haute tension et permettre au véhicule de passer. Le câble s'est rompu, électrocutant des danseurs et des musiciens. Selon la station haïtienne Radio Métropole, Phantom, le chanteur vedette du groupe Barricade Crew, fait partie des personnes directement touchées par le câble et est dans un état critique. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu à l'hôpital général de Port-au-Prince affirme avoir vu de nombreux blessés aux urgences. Port-au-Prince a lancé dimanche son carnaval, le plus important de la Caraïbe. La musique et la danse en sont les principales attractions.
Un juge fédéral américain a ordonné la suspension temporaire d'un plan de régularisation de millions de clandestins décrété par Barack Obama en novembre dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco.
L'Afrique comptera plus de 350 millions de smartphones d'ici 2017. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet Deloitte publiée hier. Selon cette firme, le marché est stimulé par une forte croissance des économies africaines et catalysé par l'arrivée des smartphones à bas prix qui, dit-elle, démocratisent l'accès au numérique. Selon l'AFP, la principale conséquence de ce boom programmé des smartphones sera le développement du paiement par mobile en Afrique. La compagnie russe Rostec affirme avoir été sélectionnée pour la construction de la première raffinerie de pétrole en Ouganda. Le coût de cet investissement, 3 milliards de dollars. D'une capacité de 60 000 barils par jour, le complexe traitera le pétrole brut provenant des réserves du bassin du lac Albert près de la RDC et pourra exporter des produits raffinés vers les pays voisins. L'amélioration de la situation sécuritaire en Somalie relance la compétition dans le secteur aérien. Les compagnies régionales Dahalo Airlines et Juba Airways, qui exploitaient indépendamment le ciel somalien, ont été obligés de fusionner pour faire face à l'offensive des transporteurs internationaux comme Turkish Airlines, Ethiopian Airlines ou encore Fly Dubai, signale Reuters. Enfin, l'exécution en Libye de 21 chrétiens coptes égyptiens a braqué les feux de l'actualité sur la situation économique dans leur pays d'origine. Avec la moitié de ses 90 millions d'habitants âgés de moins de 25 ans et un taux de chômage de 13%, l'Égypte voit des milliers de ses fils aller dans les pays voisins, notamment la Libye, en quête d'emploi.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Timnoté Domangmaï.
On passe tout de suite à notre page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
En Europe, 8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, plusieurs affiches alléchantes aujourd'hui et demain. D'abord, le Bayern Munich qui a retrouvé sa force de frappe sera en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. Selon l'AFP, l'équipe allemande ne verra pas Donetsk. La guerre civile a obligé le Shakhtar à s'exiler pour la Ligue des Champions. À Lviv, à 1250 km de sa Donbass Arena. Une enceinte utilisée pour la distribution d'aide alimentaire.
Et l'autre affiche entre Paris et Chelsea.
Oui, et ça sonne comme la revanche du quart de finale de l'an dernier quand les Londoniens avaient éliminé sur le fil au retour l'équipe de Paris. Mais depuis ce week-end, le combat s'annonce déséquilibré selon l'AFP qui signale plusieurs blessés du côté du PSG, dont l'Ivoirien Serge Aurier qui est forfait.
On a joué la première journée du groupe B du championnat d'Afrique de moins de 17 ans, Bagassi.
Oui, et cette journée a été marquée par une entrée en force du Mali qui a écrasé le Cameroun aux 3-1. Quant aux éléphantaux, ils ont fait un match nul, 2-2 avec les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.
On termine en cyclisme.
Oui, l'homme banni à vie de toute activité dans le cyclisme, il s'agit de l'Américain Lance Armstrong, donc pour dopage depuis 2012, et privé de ses 7 victoires dans le Tour de France, a été condamné par la justice ce lundi à verser 10 millions de dollars à l'un de ses ex-parraineurs.
Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. On met le cap, Morgane, sur le Niger.
Des milliers de personnes sont sorties ce matin dans différentes villes du pays pour marcher en soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram. La secte islamiste nigériane a attaqué le pays pour la première fois la semaine dernière. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Hymne national entonné en chœur par les milliers de manifestants réunis à la place de la Concertation. Lecture, puis remise d'un mémorandum des forces vives de la nation au chef suprême des armées, le président de la République Issoufou Mahamadou.
Monsieur le président de la République,
on n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Parce que ce jour-là, nos forces de défense et de sécurité ont écrasé Boko Haram. Nos forces de défense et de sécurité ont donc la volonté de se battre. Et le soutien que vous leur apportez aujourd'hui, que nous leur apportons aujourd'hui, renforcera leur morale, leur volonté de se battre. Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram.
Les manifestants se disent plus que jamais déterminés à soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans cette lutte contre Boko Haram.
Nous sommes fiers de nos soldats et je voudrais dire quelque chose ici. Qui s'y frotte, s'y pique.
C'est celle qui consiste à se mettre tous ensemble pour lutter en bloc contre ce fléau, contre cette calamité que constitue Boko Haram. Boko Haram, on l'a dit, est haram. Donc nous devons au Niger démontrer à la face du monde que nous allons booster hors de nos frontières cette épidémie, Inch'Allah.
La manifestation a été organisée simultanément dans les autres villes du pays, à l'exception bien sûr de Diffa, qui a été la cible des attaques de la secte, ayant appelé leurs militants à boycotter la marche. Aucun leader de l'opposition n'a été aperçu ce matin dans la foule. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Nous avons gagné le pari.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Et dans le nord du Nigeria, Boko Haram a distribué des tracts avertissant les populations de s'abstenir des élections nationales du 28 mars. La sécurité est encore plus précaire dans la région et des familles s'empressent de s'éloigner des potentiels foyers de tension. Par ailleurs, on se prépare à des troubles après la publication des résultats.
Du delta du Niger à l'extrême nord-est, la période préélectorale est devenue un moment de migration pour nombre de Nigérians. Notre envoyé spécial Anne Luke a rencontré plusieurs d'entre eux dans les rues de Kaduna.
My wife has been pestering me for the past 3 months.
Ma femme n'a pas cessé de me harceler depuis 3 mois. Même aujourd'hui, elle m'a appelé pour me dire: sommes-nous prêts à nous déplacer vers un endroit plus sûr?
Personne ne veut mourir pour rien. Moi-même, j'ai l'intention de déménager dans la partie sud de Kaduna, où je ne serai pas exposé au bruit de guerre, aux tambours de crise, aux gens brûlant des pneus, aux gaz lacrymogènes et autres.
Le dernier vote à l'échelle nationale au Nigeria en 2011 a été salué comme plus crédible que toutes les précédentes élections. Mais plus de 1000 personnes ont été tuées, la plupart lors de violences post-électorales et surtout dans l'état de Kaduna où la politique a suscité des tensions communautaires. Les élections de 2015 promettent d'être les plus âprement disputées dans l'histoire du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan et le parti au pouvoir, le PDP, sont confrontés à une forte opposition de l'APC et de son candidat, l'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari. Les électeurs sont anxieux au sujet de la période post-électorale. Nous allons prendre notre temps, dit cet homme de Bauchi. Nous irons voter et nous allons rester à l'intérieur de nos maisons et nous allons examiner la façon dont le vote a lieu et l'issue de celui-ci. Mais certainement, nous devons voter. Le chef de la police du Nigeria a publié une déclaration ce mois-ci essayant de rassurer les électeurs et leur demandant d'arrêter leur migration vers d'autres régions du pays. Mais les incidents préélectoraux se sont accumulés. Des sièges de partis ont été attaqués à la bombe ou vandalisés. Des partisans de l'opposition disent qu'ils ont été agressés dans l'état de Rivers. Un kamikaze s'est fait exploser à Gombe alors que le président Goodluck Jonathan sortait d'un meeting électoral. La Commission électorale nationale indépendante a reporté les élections de 6 semaines, soit au 28 mars, après que les forces de sécurité ont dit avoir besoin de plus de temps pour combattre Boko Haram dans le nord-est et garantir la sécurité des élections.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Centrafrique, le Conseil national de transition, qui tient lieu de parlement provisoire, a adopté un avant-projet de loi de constitution qui sera transmis au gouvernement avant d'être soumis aux électeurs par voie de référendum. L'une des grandes nouveautés de la proposition de loi prévoit la création d'un Sénat. Félix Yepassi-Zimbro a joint le président de la commission de loi au CNT, Blaise Fleury-Otto.
Au moins dans cette constitution, on a pu régler un certain nombre de problèmes. Donnons par exemple à la question des principes de la République, à la question de la limitation du pouvoir de nomination du président de la République, quitte est autorisé bien évidemment à procéder à certaines nominations, mais pour d'autres nominations, il sera tenu de respecter la liste fixée par la loi. Cela voudrait dire qu'il devra donc obtenir l'autorisation ou l'avis du Congrès, puisqu'il y a le Sénat qui fait partie des institutions républicaines. Mais en plus, pour tout ce qui est contrat touchant aux ressources naturelles de la République centrafricaine, il faudrait absolument l'avis de l'Assemblée nationale avant que les contrats ne soient finis.
Autrement dit, Monsieur Blaise de Fleury-Otto, la nouveauté dans cette proposition de loi sera donc la mise en place du Sénat.
Il n'y a pas que la mise en place du Sénat. Il y a des garanties que nous avions mises pour éviter aux futurs chefs de l'État ou aux futurs dirigeants de notre pays d'abuser de leur autorité. À titre d'exemple, lorsque les institutions sont mises en place, il y a un délai constitutionnel par rapport auquel toutes les institutions doivent être mises en place. Mais en République centrafricaine, il y a encore quelques années, il y a par exemple, l'institution haute cour de justice devant laquelle peuvent être traduits soit le chef de l'État, soit les membres du gouvernement ou les députés qui n'avaient pas été mis en place de manière effective. Et ça a posé un énorme problème quant aux questions de forfaiture ou de haute trahison dont s'étaient rendus certains dirigeants de notre pays.
Blaise Fleury-Otto, président de la commission de loi au Conseil national de transition.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Burundi, le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat se dit déterminé à poursuivre les efforts visant à amener le président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 à renoncer à un troisième mandat. Dimanche, le conseiller présidentiel Willy Nyamitwe a déclaré à l'AFP que le président Pierre Nkurunziza a toujours dit que c'est son parti, le CNDD-FDD, qui choisira son candidat dans le respect de la Constitution. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de maître Armel Niongere du collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat.
On avait
une correspondance à son excellence le président de la République. Donc on attend qu'il nous réponde par voie de la correspondance. Sinon, nous allons continuer à se battre contre le troisième mandat du président de la République. On a déjà lancé une campagne contre le troisième mandat. On a des activités déjà prévues. Et donc, on va se réunir pour voir les propos tenus par le porte-parole du président de la République, pour voir les stratégies qu'on devrait adopter pour cadrer et continuer notre campagne.
Mais selon le conseiller du président, c'est le CNDD-FDD qui choisira son candidat.
Que ce soit le parti CNDD-FDD, que ce soit les membres du conseil de sage, que ce soit quelle structure, nous allons continuer à montrer que le président Nkurunziza ne peut pas briguer un troisième mandat. Vu la constitution de la République du Burundi, vu les accords d'Arusha, vu l'esprit des accords d'Arusha, on voit que ça serait une violation flagrante de la loi.
Et au cas où le président briguerait un troisième mandat, qu'est-ce qui se passerait?
Je pense qu'il pourrait y avoir des difficultés dans la gestion politique au Burundi, puisqu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui se sont exprimées sur le troisième mandat. Il y a surtout l'Église catholique, il y a certaines organisations de la société civile, certains partis politiques, il y a la population qui s'exprime via les médias. Donc, toutes ces catégories de personnes qui s'insurgent contre le troisième mandat du président de la République, je pense que le président devrait considérer cela comme une alerte de la population par rapport à cette violation de la Constitution.
Mais dans le camp du président, on dit que ce dernier n'a été élu au suffrage universel qu'une seule fois.
On dit, dans l'esprit des accords d'Arusha, que nul ne peut dépasser 10 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait 10 ans au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas prêté serment deux fois? Donc, je pense que ça, c'est une interprétation des personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir.
Maître Armel Niongere, du collectif Campagne citoyenne, halte au troisième mandat, joint à Bujumbura.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Notre sujet de cette semaine, nous parlons cinéma. Les difficultés que rencontrent les cinéastes africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde, aujourd'hui, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées cet après-midi dans une nouvelle attaque suicide près de Biou, dans le village de Yamarkoumi, dans l'état de Borno.
Par ailleurs, des centaines d'hommes du groupe islamiste ont attaqué la ville d'Askira, Ouba, et des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun.
C'est dans ce contexte de violence que les Nigériens ont battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer les crimes de l'organisation djihadiste nigériane.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés ce mardi dans la ville stratégique de Debaltseva, dans l'est du pays. Des combats acharnés ont éclaté dans les rues, une dégradation de la situation survenue malgré la nouvelle trêve et un round des négociations téléphoniques au plus haut niveau.
Sachez aussi qu'en Centrafrique, le Conseil national de transition, qui tient de parlement provisoire, a adopté un avant-projet de loi de constitution qui sera transmis au gouvernement avant d'être soumis aux électeurs par voie de référendum. L'une des grandes nouveautés de la proposition de la loi prévoit la création d'un Sénat.
Et tragédie en Haïti, au moins 18 personnes sont mortes, électrocutées, 15 autres blessées la nuit dernière suite à la chute d'une ligne électrique pendant le carnaval. Quel temps fait-il, Morgane? Niamey, Niger, 33 degrés centigrades. À Malabo, 31 degrés. à Lomé au Togo, 26 degrés. Et à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 25 degrés centigrades. On prévoit de la pluie pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec une température de 28 degrés. Mais ici, à Washington, l'histoire, c'est la neige.
Hein. Il fait froid.
Moins 3 degrés centigrades. Et avec le facteur vent, c'est comme s'il faisait moins 8 degrés centigrades, Morgan.
La mise en onde de cette édition a été assurée par Lionel Gaïma. Bill Barber était à la console technique. À la présentation, Morgan Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bonsoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA.